Nos programmes vont maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Nous aurons la leçon de tchèque avec Guillaume Narguet, comme tous les 15 jours désormais. Puis la rubrique littéraire sera consacrée à un entretien avec le poète belge Werner Lambersi, présent à Prague la semaine dernière dans le cadre du Festival des écrivains. Mais avant cela, place tout d'abord à la rubrique Culture sans frontières. Tout de suite, nous retrouvons donc Anna Kubishta pour nous en dire un peu plus sur le festival du film d'animation. Très bonne écoute à toutes et à tous.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la 10e édition du Festival du film d'animation Anifest à Teplice, était organisé un forum franco-tchèque dont le but est de rapprocher et d'échanger sur deux grandes traditions de l'animation. Parmi les invités, Olivier Cotte, historien de l'animation et professeur à l'École des Gobelins à Paris, qu'il nous présente.
L'École des Gobelins est la première école d'animation qui a été ouverte en France au tout début des années 70, donc c'est la plus ancienne, et c'est une école qui a la particularité d'être assez portée sur l'animation elle-même, l'animation de personnages. Ce n'est pas une école d'expression artistique, on n'est pas là pour réaliser des films en solo, pour s'exprimer comme on le fait par exemple avec la peinture ou les arts plastiques traditionnels. On fait des films, mais dans le cadre de travaux de groupe. Ces films peuvent être projetés lors notamment des séances de courts-métrages et de longs-métrages en compétition du Festival d'Annecy. Ce sont des films de commande. Et puis en troisième année, il y a la réalisation, toujours collective, d'un film de fin d'études, qui est un court-métrage d'une durée comprise entre 3 et 6 minutes.
Alors c'est une école qui est spécifique également parce que vous travaillez à la manière ancienne. Alors certes, il y a évidemment l'utilisation du numérique, mais c'est plutôt dans une deuxième phase, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. La première année, notamment, les étudiants touchent un peu au numérique, notamment avec Flash et une petite initiation sur After Effects, mais le gros du travail est de toute façon réalisé en animation traditionnelle sur papier. Je précise d'ailleurs qu'on ne fait pas d'animation en volume au Gobelin, tout simplement parce que on peut pas tout faire. Si on veut vraiment bien enseigner, et du coup pour que les étudiants apprennent bien aussi, il vaut mieux être quand même assez spécialisé. Donc nous on est plutôt sur l'animation en 2D, donc dessinée. Pour ça, du coup, ça signifie qu'il faut quand même bien savoir dessiner pour rentrer à l'école.
Après, ça veut dire qu'un étudiant arrive en général au Gobelin après avoir déjà fait une école ?
Très souvent. Très, très souvent, ils font ce qu'on appelle une remise à niveau, c'est-à-dire qu'après le baccalauréat, la plupart d'entre eux suivent des cours dans d'autres écoles de manière à être reçus à l'école de Gobelin, parce que le concours est quand même assez sévère. Il y a entre 500 et 700 candidats pour 25 élus. Après, par contre, pour revenir aux techniques, en deuxième année, on va beaucoup plus vers le numérique, avec notamment l'apprentissage d'After Effects, qui sera très utilisé pour la conception, la fabrication des films pour Annecy. Et puis, l'année se termine sur une première partie de l'apprentissage de Maya, qui est terminée en début de troisième année, avant la réalisation du film de fin d'études.
Quand un étudiant sort de l'école des Gobelins, quelle porte s'ouvre à lui ?
Alors, généralement, un étudiant qui sort des Gobelins trouve assez facilement un travail en tant qu'animateur, parce que c'est vraiment une école, encore une fois, qui est vraiment spécialisée sur l'animation de personnages. Et ça, quelle que soit la technique, de toute façon, que l'on fasse de la marionnette, du dessin animé sur papier ou sur flash ou en 3D. De toute façon, les règles de l'animation, les règles du timing, de l'acting sont les mêmes. Insuffler une vie propre à un personnage est totalement indépendant de la technique utilisée. Donc cet apprentissage qu'ils ont, ils peuvent le mettre de toute façon en service, quel que soit le type de production. On ne forme pas spécifiquement de réalisateur. Par contre, un étudiant peut très bien sortir et se dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le storyboard. » Et il va devenir storyboarder, ou c'est le layout. Et il va devenir layoutman. quelques-uns changent complètement d'orientation et se retrouvent à faire plutôt de la bande dessinée ou de l'illustration, sachant que de toute façon, dans ces conditions, les gobelins auront quand même amené la capacité à mettre en image des idées et des personnages de manière graphique et avec une certaine puissance dramatique.
Vous qui êtes historien justement de l'animation, de l'histoire de l'animation, vous pouvez un petit peu comparer évidemment les différents styles, alors les différentes écoles, j'allais dire, nationales. Vous connaissez évidemment l'animation tchèque. Est-ce que vous pourriez un petit peu la qualifier et puis peut-être la comparer avec la tradition française par exemple ?
Je trouve qu'il y a plutôt pas mal de points communs entre l'animation tchèque et l'animation française, dans le sens où je crois qu'il y a une culture commune. On pourrait dire peut-être aussi la même chose d'une certaine façon de la France et de la Pologne. Il y a quelque chose d'assez commun entre les deux. Maintenant, par contre, il y a quand même des spécificités. C'est vrai que l'animation tchèque est très très portée sur le volume et sur les marionnettes, parce que la marionnette est un art vraiment typiquement tchèque. Il y a eu des écrivains pendant le 19e siècle ou pendant le 20e siècle qui ont vraiment écrit des pièces de théâtre pour la marionnette. Il y avait des théâtres à Prague pour ça. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. Et évidemment, du coup, l'animation elle-même s'est portée vers la marionnette, ce qui est très bien. Et la France, là-dessus, est un peu, j'allais dire, en retard, parce qu'il y a maintenant, depuis une quinzaine d'années, on fait beaucoup plus de films en volume. Alors, je crois que c'est un phénomène un peu général dans le monde entier, hein. Même depuis Hardman ou certains longs métrages américains, comme, Nightmare Before Christmas, James and the Giant Peach. On revient un peu au volume, mais c'est quand même nouveau pour le monde occidental, alors que par contre, en Tchécoslovaquie, c'est vraiment une tradition. Ça constitue une différence. Pour le reste, par contre, en termes d'univers et de scénario, on peut trouver beaucoup de points communs. Par exemple, le surréalisme est né à Paris, et il y a un surréalisme tchèque qui est très très important.
Et qui est toujours vivant d'ailleurs à l'heure actuelle.
Et qui est toujours vivant, notamment avec des réalisateurs qui commencent à avoir un certain âge, comme Jan Schockmeyer. Mais il y en a d'autres, il y a une relève. Et là-dessus, du coup, il y a je crois que c'est vraiment une identité européenne qui est commune aux deux pays. Il y a une façon de voir aussi une certaine absurdité de l'existence qui existe dans les deux pays. C'est pas pour rien, par exemple, qu'en France, il y a un certain nombre d'artistes étrangers qui ont été accueillis, comme Ionesco, par exemple, qui est roumain et qui est l'inventeur du théâtre de l'absurde. Cette mise en scène de l'absurdité de l'existence, on la trouve aussi, je trouve. Mais c'est un regard extérieur, je peux me tromper, mais on la trouve quand même beaucoup dans la culture tchèque.
C'était donc Olivier Cotte, historien de l'animation et professeur à l'école des Gobelins à Paris. Et puis, 7 producteurs français de courts-métrages et de films d'animation ont été également invités à Teplice pour échanger avec leurs homologues d'Europe centrale ainsi qu'avec des auteurs. Ils nous en disent plus sur le sujet, on les écoute.
Donc moi c'est Ron Diens, j'ai créé Sacrum de production en 1999 et depuis on a produit une petite cinquantaine de courts-métrages sélectionnés dans plus de 900 festivals. On fait approximativement 50% d'animation et 50% de prise de vue réelle et de documentaire. Voilà, et on est en train de passer doucement au long métrage et à la collection d'animation.
Moi, je m'appelle Christian Foch, je suis fondateur avec un groupe d'amis de la société Larduxe Film qui existe depuis 20 ans et on est connu pour faire tout sauf de la fiction avec une grande passion pour l'animation.
Alors ici, vous êtes dans le cadre du festival, invité dans le cadre du festival Anifest, qui en est à sa 10e édition. Quels vont être un petit peu vos rôles ici, respectivement? Alors, je sais que pour Christian, on va donner une conférence. Vous allez également participer à un forum, Christian?
Ouais. En fait, le Visegrad Exchange Forum, c'est une session de pitch de projet. C'est une forme qui existe depuis une bonne dizaine d'années dans les festivals internationaux et qui revient en amont des films pour aider à monter des projets. Et donc, ils ont eu l'excellente idée de tenter le coup ici. C'est une forme qu'on trouve dans des grands festivals pour le documentaire comme l'IDFA depuis très peu de temps à Clermont, depuis 2-3 ans à Clermont. Pitcher un projet, c'est le présenter, apprendre les défauts et les qualités, les points forts et les points faibles de son projet. Mais immédiatement trouver en face de soi, et c'est la qualité d'un forum que de mettre en face des porteurs de projets, des acheteurs de télé, des producteurs, des financiers. La difficulté de monter un film, c'est quoi? C'est que tu dois voir des gens, mais tu les as jamais tous sous la main. Tu t'emmerdes à voir chaque personne, et notamment en France, le moindre sous-fifre d'une sous-chaîne est le Premier ministre, injoignable, qui rappelle jamais, qui donne jamais de réponse. Donc, choper ces gens, c'est très compliqué. Et le rôle des festivals, de ce point de vue-là, est formidable. Ils te les mettent devant toi. Et du coup, leur rôle aux télé, et dans notre cas, aux producteurs, eh ben, c'est d'être attentif et de choisir ce qui nous plaît dans un panel de projets.
Dans ce cadre-là, alors c'est les projets qui vont être présentés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un débouché futur, éventuellement être monté, une coproduction?
Pourquoi pas, tout est possible en fait. Un projet dépend d'énormément de facteurs, notamment dans le désordre, de la personnalité de l'auteur, de la qualité du producteur, qui deviendrait coproducteur à ce moment-là, enfin où on deviendrait coproducteur, du style graphique, du désir de travail, de l'originalité, voilà, c'est tout ça. Et puis de la présentation, être à l'aise, croire en son projet, c'est une alchimie. Et en fait, ce qui est intéressant justement dans ces métiers artistiques, c'est qu'on est régulièrement surpris par ce qu'on peut voir, entendre.
Juste pour terminer sur le festival ici, dans ce cadre, vous avez visité à Prague différents studios d'animation. Quelles sont un peu vos impressions sur ces rencontres?
Eh ben, on voit bien que la Tchéquie a une longue histoire de l'animation, une spécialité dans la poupette animation, nous, vu de loin, on pouvait d'une certaine manière critiquer parce que c'est un old style, mais on sent aussi une volonté de le renouveler, de le faire évoluer. La stop motion et la poupette animation avaient perdu son attrait jusqu'à ce que certains prouvent, Tim Burton et Aardman principalement, que c'était un genre extrêmement aimé du public. Et donc on est dans une phase ascendante et des gens, et l'histoire de la République tchèque et de son secteur de l'animation devrait, comment dire, déboucher sur quelque chose qui a un très fort potentiel. Mais il faut se débarrasser d'un certain style de narration, de conte traditionnel, disons, qui a eu ses lettres de noblesse mais qui ne fonctionne pas aujourd'hui ou qui fonctionne plus. Je sais pas, j'en parle comme si je savais, je ne sais pas. Mais il y a un potentiel très fort, voilà. On a vu des grands professionnels, on a vu des talents, on a vu des gens justement qui réfléchissent à le faire évoluer, ça.
Dans l'émission d'aujourd'hui, vous avez pu entendre l'historien de l'animation Olivier Cotte et les producteurs Christian Pfoll et Ron Diens. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet sur Lidice. Lidice, c'est ce village qui a été rasé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Tchécoslovaquie et qui fait l'objet d'une adaptation cinématographique. À bientôt, bon vent, ahoy.
C'était Anna Kubishta pour cette nouvelle édition de Culture sans frontières. On passe tout de suite au tchèque du bout de la langue avec Guillaume Narguet qui poursuit aujourd'hui sa leçon sur un phénomène important dans la langue tchèque, le phénomène des diminutifs.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Nous allons pour cette fois revenir sur l'usage des diminutifs
zdrobněliny
dans la langue tchèque. Comme nous l'avions remarqué lors de l'émission précédente, à la différence du français où leur emploi est somme toute assez restreint et figé, les Tchèques sont très friands de ces diminutifs formés à partir des substantifs comme des noms propres, généralement à l'aide d'une suffixation. Certains se plaignent de plus en plus d'une utilisation par trop excessive et parfois même intempestive de ce procédé de dérivation lexicale qui peut servir à ajouter une idée de petite taille ou de fragilité à un mot neutre originel ou à lui ajouter une nuance affective, une connotation positive. Dans notre dernier numéro, nous nous étions ainsi intéressés notamment aux mots
pivo,
bière, dont les diminutifs
pivko, pivečko
ou encore
pivinko
ne servent pas à désigner une petite bière dans le sens de bière de petite taille, mais plutôt une petite bière, comme on l'entend parfois aussi en français, dans le sens de boire une bonne bière avec envie, avec goût, parce que l'on apprécie particulièrement cette boisson. Et cet exemple de la bière vaut pour la majorité des autres substantifs. C'est bien simple, les Tchèques raffolent de ces diminutifs, et pas seulement lorsqu'il s'agit de boire et de manger. Toutefois, dans certains cas, beaucoup plus rares, l'emploi du diminutif peut avoir une connotation également négative. L'exemple le plus marquant est sans aucun doute celui de
«damichka»,
un diminutif du mot
«dama»,
«dame», qui signifie donc «petite dame». À la différence du français, où l'on entend parfois, notamment certains commerçants, interpeller une femme en l'appelant «ma petite dame», en tchèque, ce mot de
«damichka»
est plutôt employé ironiquement pour désigner une dame qui fait des manières ou qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Il en va de même également avec le mot
«slechinka»,
diminutif de
«slechna»,
demoiselle, employé le plus souvent dans un sens clairement péjoratif. Les diminutifs sont également très présents dans le vocabulaire des enfants, et peut-être plus encore dans celui des mamans tchèques, ce qui en devient parfois franchement agaçant. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle les diminutifs portent avec eux plutôt un attribut de féminité. Car même si les hommes tchèques parlent eux aussi par exemple de
«footballek»
et non pas de
«football»
pour évoquer le football et pas le baby-foot, et donc de
«pivečko»
pour suivre les matchs à la télé, il n'en demeure pas moins que ce sont d'abord les femmes tchèques et les mamans de petits-enfants qui raffolent de diminutifs. Reste que même si elles ne sont pas mères, il n'est pas rare d'entendre des femmes, par exemple dans un magasin, s'extasier devant une paire de
«botichki»,
diminutif de
«beauté»,
chaussures ou une petite robe
«chatichki»,
et ce même si celles-ci sont de taille 42 ou de taille XL. Outre les substantifs, les diminutifs sont aussi très souvent employés pour les noms propres. Prenons ainsi l'exemple de quelques-uns des prénoms tchèques les plus courants. Chez les garçons, citons
Jan,
Jean,
Pavel,
Paul,
Petr,
Pierre,
Tomáš,
Thomas,
Karel,
Charles,
Jiří,
Georges ou encore
Lukáš,
Luc. Remarquons que pour les prénoms Jean et Georges, les Tchèques, en dehors des occasions officielles, comme à l'école ou au travail, n'emploient que très rarement leurs formes originelles, à savoir
Jan
et
Jiří.
Ainsi,
Jan
devient
Honza
ou encore
Jenda
dans certaines régions.
Jiří,
quant à lui, se transforme en
Jirka.
Tous ces prénoms possèdent plusieurs diminutifs. Ceux-ci sont généralement employés avec les enfants, mais ils peuvent aussi exprimer un sentiment, de la sympathie, de l'amitié, de l'amour parfois, que l'on ressent pour la personne à laquelle on s'adresse. Ainsi, Jean, soit
Jan
ou
Honza
ou
Jenda,
peut se dire
Honzik,
soit littéralement petit Jean ou gentil Jean, ou encore
Honziček
pour les petits-enfants. L'autre forme de Jan,
Jenda,
nous donne
Jeniček,
là aussi pour les petits-enfants, mais encore
Jenik, Janik, Jenia, Jano, Janeček
ou
Janek.
Et il en va ainsi pour la majorité des prénoms tchèques. Ainsi, Georges,
Jiří,
ou comme nous l'avons signalé,
Jirka,
peut se transformer en
Jiřík
ou
Jiříček.
Paul,
Pavel,
peut lui devenir
Pavlík, Pavlíček.
Pierre,
Petr,
donne par exemple
Peťa.
Thomas,
Tomáš. Tom, Tomi, Tomík, Tomášek.
Charles,
Karel,
se transforme en
Kaja, Karlík, Karlíček.
Et enfin Luc,
Lukáš,
nous donne
Lukášek.
Passons maintenant aux prénoms féminins pour lesquels nous nous contenterons aussi des plus classiques d'entre eux. Comme pour les garçons, les parents tchèques ont un petit faible pour les prénoms de la Bible. Citons donc Ève,
Eva,
Marie,
Marie
et Madeleine,
Magdalena.
D'autres prénoms favoris sont par exemple Thérèse,
Teresa
et Catherine,
Katerina.
Tous ces prénoms disposent eux aussi d'une multitude de diminutifs. Ainsi, Ève,
Eva,
peut devenir
Evka, Evička
ou encore
Evinka.
Avec Marie,
Marie,
n'en citons que deux, les plus jolies,
Marushka
et
Marjenka.
Et pour cause, pour le prénom
Marie,
il n'existe pas moins de plusieurs dizaines de formes de diminutifs. Concernant Madeleine,
Magdalena,
celle-ci peut devenir
Magda, Madla, Madlenka, Magdalenka, Madlushka, Magdushka ou Majka.
Enfin, passons à Thérèse,
Teresa,
qui dispose, elle, de nettement moins de diminutifs. Ne mentionnons donc que
Terka
et
Tereska.
Enfin, en comparaison, Catherine,
Katerina,
est plus riche avec
Katka, Kachenka, Katushka, Katerinka, Katia,
voire
Katienka.
«
C'est donc en bien bonne compagnie avec toutes ces petites Madeleine, Catherine, Thérèse et autres Eva que s'achève ce Tchèque du bout de la langue consacré une nouvelle fois au diminutif. Le prochain rendez-vous avec certaines particularités de la langue tchèque, ce sera dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous du mieux possible. Portez le soleil en vous. Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
On termine cette émission comme d'habitude avec de la littérature et parmi les auteurs invités du Festival des écrivains qui a eu lieu à Prague du 16 au 23 avril dernier, il y avait aussi le poète belge Werner Lambersy. Dans un entretien accordé à Radio Prague, le poète né dans un milieu néerlandophone a évoqué ses origines et a expliqué sa décision d'écrire en français. Grand voyageur, il a parlé aussi de ses inspirations orientales. Václav Richter vous propose maintenant la seconde partie de cet entretien.
Rencontre littéraire. Werner Lambersy est un poète qui refuse de respecter les frontières entre les gens et entre les civilisations. On dirait que l'Occident et l'Orient se tendent la main dans son œuvre. Dans la seconde partie de l'entretien pour Radio Prague, Werner Lambersy développe son idée sur les aspects communs de la pensée des mystiques européens et de l'univers spirituel des penseurs de l'Orient. Il estime que le discours des penseurs orientaux est souvent très semblable à la pensée européenne et constate que ces penseurs parlent du néant, du vide, du manque, de la méfiance qu'ils ont de la parole écrite. Ces thèmes, selon Werner Lambersy, étaient également chers aux mystiques du vieux continent. Le poète trouve donc une sorte de fraternité d'idées et de sentiments avec ces gens d'Orient. Sans être orientaliste, il se sent chez lui en leur compagnie.
Je suis désolé, mais c'est pas un hasard si en Inde, les meilleurs spécialistes de l'informatique, ce sont des Indiens. Tout est prévu dans les Upanishads. Vous ouvrez les Upanishads et vous avez l'informatique qui est là. Tous les astrophysiciens avec qui je suis très ami, français en tout cas, j'adore des gens comme Luminet, comme Michel Cassé, comme Klein, c'est des gens que je lis beaucoup. Reeves aussi, enfin un peu moins, mais ce sont des gens que je lis beaucoup. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que dans les grands textes, c'était là. Non seulement c'était là dit autrement, un peu comme la chimie était dans le chimie, si on veut, hein, mais c'était dit. Mais non seulement ça, la première fois que j'ai entendu Michel Cassé à une conférence où il parlait de l'astrophysique, il disait « Je ne peux rendre compte avec exactitude de l'état de mes recherches scientifiques qu'en parlant en langage poétique. » C'est le seul qui puisse encore couvrir à peu près les réalités avec lesquelles je suis affronté tous les jours.
Maintenant, vous vous trouvez à Prague. Qu'est-ce que cette culture, la littérature et la poésie d'Europe centrale, disons, représente pour vous? Est-ce qu'elle a joué un rôle dans vos inspirations?
Oui, mais c'était assez difficile parce qu'on avait un accès assez... Enfin, c'était assez compliqué d'avoir un accès véritable. On avait bien une parole officielle qui arrivait, mais enfin, on n'était pas très à l'aise avec ce qu'on entendait. Alors, les premiers qui m'ont vraiment surpris, ce sont les poètes d'Allemagne de l'Est, mais que des gens de l'Allemagne de l'Est m'ont apporté. On dit, mais c'est formidable. On ne parle pas de ces gens-là. Et il y a des poètes fabuleux, enfin vraiment fabuleux. Donc j'ai commencé à, dans les années, mais tard, hein, dans les années 80, hein, à découvrir la littérature de l'Allemagne de l'Est, etc. Et puis petit à petit, alors, je ne vais pas quand même parler de Prague en disant, oui, j'ai lu Kafka, oui, j'ai lu Rilke, oui, j'ai lu... Bon, d'accord, j'ai lu Kepler aussi. Ce serait idiot. Je n'ai pas une sensation véritable de ce qu'était la littérature. Mon traducteur en tchèque, c'était Jan Rubež, qui était le traducteur de Seyfert dans l'autre sens. Bon, par lui, j'ai su un peu Seyfert, j'ai su un peu Holland. J'étais très admiratif, hein, mais je n'avais pas le contexte. Peut-être que je n'avais pas encore assez souffert non plus. Hein, allez savoir, parce que la souffrance qu'il y a là-dedans, c'est quand même... Il faut la sentir, enfin. Alors plus tard, j'ai mieux compris. Quand j'ai pu aller dans d'autres pays qui avaient souffert de dictatures fortes, hein, et quand je suis allé en Albanie, par exemple, et quelqu'un m'a dit, si t'as pas vécu 30 ans, là, tu peux pas comprendre. Hein, tu peux pas. Il faut avoir été dedans pendant longtemps. Il faut presque être né dedans. Et là, je peux te parler. Sinon, tu seras toujours loin de ça. Ils ont raison. Je sens bien la souffrance, mais c'est comme quand mon enfant a mal. Il dit, j'ai mal, mais j'ai mal comment? On peut pas dire jusqu'où ça fait mal comment. Beaucoup, très beaucoup, comme dit mon fils. Énormément, ça veut rien dire.
Vous avez parlé de votre traducteur Jan Rubesch. Quelles œuvres de vous ont été traduites en tchèque?
Là, c'était pas des livres. Hein. En tchèque, c'était des poèmes qu'il a mis dans des revues. Donc, mais ça remonte à 75. Puis Jan Rubesch est devenu professeur d'université à Bruxelles et on s'est perdu de vue. En fait, de livres tchèques, ça va être le premier. En revanche, j'en ai 3 en Roumanie, j'en ai... un en Slovaquie, j'en ai 2 en Bulgarie, j'en ai 2 en serbo-croate. La Tchéquie fait un trou.
Il y a donc un livre de vous qui a été traduit déjà et qui sera publié.
Il va sortir en octobre.
Est-ce que vous pourrez le présenter?
Oui, alors c'est Coimbra, qui a comme sous-titre l'Antiphonaire d'Orphée, dans le grand livre, hein, l'Antiphonaire d'Orphée. Et c'est l'histoire, effectivement. Quand j'étais à Coimbra, juste à la révolution des œillets, juste après, hein, j'allais voir un ami qui était en prison, mais du bon côté. Mais bon, c'était un général dont on se méfiait un peu parce qu'il était très communiste. Et moi, j'étais de gauche, bien sûr. Donc j'allais le voir, mais dans un contexte très différent. Et je me retrouve dans un pays encore en danger, en plein risque, en pleine effervescence. Dans un pays que je trouve extrêmement poétique, parce que la littérature portugaise, c'est une merveilleuse littérature, très proche de la Belgique, c'est 2 petits pays hein, qui ont eu des grands continents à l'extérieur, etc. Donc je me sentais très portugais, et j'allais voir Torga, Michel Torga, qui a eu cette phrase extraordinaire, « L'universel, c'est le local sans les murs ». C'est un de ses titres, c'est magnifique. Donc j'allais voir Michel Torga à Coimbra. Et Coimbra, c'est une colline. Et au bas de la colline... Il y a une petite église gothique du XIIIe siècle qui s'enfonce dans le sable. C'est plus une église, hein. On peut toucher le plafond avec la main, il n'y a plus de vitraux, il n'y a plus de portes. Enfin, mais c'est quelque chose de surprenant parce qu'elle s'enfonce sans se briser. Tous les bâtiments qui s'enfoncent se cassent. Elle, non. Donc il y a quelque chose de miraculeux. Et tous les jours, le soleil descend la colline et tombe sur la petite église. Je dis, c'est Orphée qui va rejoindre Eurydice, qui va rejoindre les morts. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est un peu mon obsession, hein. C'est il faut tout recommencer tout le temps. Donc, Orphée, tous les jours, remonte sur la colline, comme Sisyphe, et redescend chercher Eurydice, et ça rate tous les jours. Mais néanmoins, ça continue. Donc, tous les jours, le drame d'Eurydice et d'Orphée se poursuit, se termine mal et bien, à la fois. Et donc, c'est un livre sur la modernité. Ça parle des banques, des bourses qui sont meurtrières, qui tuent et affament des peuples entiers. Ça parle de la publicité qui nous bouffe la tête. Ça parle de ces choses-là, qui sont a priori pas tellement poétiques, comme diraient certains, hein, mais qui, pour moi, sont de la poésie pure. Hein. Et en même temps, ça parle du mythe éternel d'Orphée, d'Eurydice et de qui je suis, et de la femme dont je suis amoureux, que j'avais avec moi à Coimbra. Et quand nous reviendrons, nous aurons eu un enfant. Nous avons fait à Coimbra.
C'était le poète belge Werner Lambertsy, répondait aux questions de Václav Richter. C'est la fin du programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir, ahoy. Radio Praga contigo.